C'est la semaine d'après, oui, c'est ça, j'avais mal noté. Alors, nous avions abordé la question de la souveraineté, et avec cette question, nous touchons un point essentiel concernant la nature de l'État moderne. Ce concept, évidemment, est absent chez les Grecs, et en particulier chez Aristote, que nous avions un peu abordé en commençant ce cours, car pour Aristote en particulier, c'est la cité qui se gouverne elle-même, qui se donne ses lois dans le cadre d'une constitution, mais il n'y a pas à proprement parler de souverain, et c'est une idée qui naît avec la modernité, qui naît en philosophie politique avec la modernité. Alors, nous avions vu diverses raisons pour lesquelles, au fond, la pensée avait abandonné les perspectives aristotéliciennes. Il est clair que dans ce contexte, les guerres de religion, c'est-à-dire les violences, jouent un rôle absolument majeur, et elles vont d'ailleurs accompagner la réflexion philosophique tout au long de cette modernité. Et on peut comprendre par là même l'importance attachée à l'individu. C'est une chose que je n'ai pas beaucoup dite. Mais alors que pour le grec Aristote, c'est évidemment la cité comme ensemble organisé qui domine et qui est à l'horizon de la pensée, dans le cas de la pensée moderne, c'est l'individu qui est au point de départ. Et donc on a affaire à des pensées marquées par, alors mettons des guillemets, l'individualisme. Ça ne veut pas nécessairement dire l'égoïsme, bien entendu, ni l'amour propre, mais l'individu en lui-même. Et on peut en effet comprendre pourquoi, dans le contexte de démantèlement de la perspective aristotélicienne, sur quoi va-t-on se baser pour reconstruire une cité ordonnée, puisqu'on n'est plus d'accord sur les finalités, on n'est plus d'accord sur l'idée de bien, et puisque la division règne dans la société. Alors le point de départ qu'on trouve dans la plupart des philosophies du contrat, c'est évidemment l'individu. J'en avais dit un mot les séances précédentes à propos de Hobbes. On part de l'individu en tant qu'il est pétri de crainte par rapport à autrui. Donc on est à mille lieues de la perspective amicale d'Aristote. C'est l'individu qui a peur d'autrui, qui est dans la crainte perpétuelle, dans la crainte que le plus faible puisse tuer le plus fort. C'est la condition naturelle dont il faut évidemment sortir puisqu'elle n'est pas viable durablement. Et donc il faut passer à la condition politique. Alors, c'est là qu'on pourrait avancer encore dans la ligne de Hobbes. J'ai préféré m'orienter vers Bodin, qui a une perspective de la souveraineté, si j'ose dire, plus souple, moins raide, et peut-être plus intéressante pour nous dans l'actualité. Mais si l'on devait prolonger du côté de Hobbes, on pourrait dire que sa théorie de la souveraineté, très très forte, s'enracine sur l'idée de l'individu et de son calcul raisonnable selon lequel cet individu s'en remet soit à un individu, soit une assemblée qui aura la souveraineté sur l'ensemble des individus, c'est-à-dire qui aura tout pouvoir, toute puissance pour faire baisser la crainte mutuelle en ouvrant un espace sous la loi qui soit un espace de paix et de sécurité. Donc, le droit de nature n'est absolument pas abandonné. Chaque individu reste évidemment lié par le besoin, la nécessité de vivre. Donc, il a pleinement le droit de vivre à tout prix. Mais il dépose ce droit en laissant l'un d'entre eux, un individu ou un groupe, exercer ce droit au nom de tout le monde. Et le souverain, le prince souverain, c'est celui qui, au nom de tous, représentant la totalité des individus, a le droit de légiférer, c'est-à-dire de donner des lois fixant le juste et l'injuste auxquelles tous les autres acceptent de se soumettre. Donc c'est un souverain qui a à la fois plein pouvoir pour les lois, mais je crois qu'il faudrait le souligner avec force, un pouvoir limité. Il a pour but d'assurer la paix et la sécurité, mais pas du tout de donner aux individus le sens de leur bien, le sens du bien. C'est aux individus de rechercher ce bien, ou de ne pas le chercher, et en particulier d'adhérer à une religion ou non. Le prince de Hobbes, le souverain, n'a évidemment rien à dire sur le terrain religieux, sauf que comme les religions sont dangereuses, il doit avoir une tutelle sur les églises, bon, qui va même assez loin. Mais je laisse ce point de côté pour insister sur une idée qui est commune à Hobbes et à Bodin, l'idée de souveraineté, c'est-à-dire que l'on s'en remet à un pouvoir politique, donc à un individu, un groupe ou un parlement, qui a plein pouvoir pour assurer la sécurité et la paix, donc pour faire tomber la crainte mutuelle. Donc il exerce le glaive, nous retrouvons Luther, et encore une fois Hobbes est un luthérien, disciple de Luther, plus ou moins orthodoxe, ça c'est autre chose. On retrouve l'idée du glaive qui doit séparer les bons des méchants, assurer la survie collective, et donc le prince a plein pouvoir pour aller dans cette ligne-là. Mais le prince n'a pour rôle, à nouveau, et nous retrouvons Luther, que d'assurer un espace politique de sécurité. Il ne peut rien dire et il n'a rien à dire sur les fins ultimes de l'individu et de la cité. Il assure la paix et la sécurité, point final. Alors, je n'ai pas abordé cette question de la question de la souveraineté par Hobbes. J'ai préféré prendre donc Jean Bodin à la fin du XVIe siècle. Nous avions commencé donc à regarder pourquoi surgit cette idée de souveraineté. Bon, j'avais insisté sur le contexte historique qui est évidemment toujours important. En philosophie politique, un auteur ne se met pas à réfléchir à partir de rien. Pour le plaisir de la spéculation, il est provoqué par des défis de son temps qu'il essaie de résoudre. Alors dans le cas de Hobbes, c'est celui de la guerre civile déchaînée par les religions, donc il essaie de trouver moyen d'assurer une paix et une sécurité dans ce contexte-là, d'où cette idée d'un pouvoir fort qui assure la sécurité. Et dans le cas de Bodin, on a aussi bien à l'horizon les guerres de religion, je disais, son livre est publié quelques années après la Saint-Barthélemy, mais son propos, semble-t-il, c'est plutôt celui d'un homme de la monarchie qui essaie de lutter contre les droits coutumiers, multiples, foisonnants, qui sont des maquis de réglementation derrière lesquels toutes les corruptions possibles, évidemment, peuvent se cacher. Donc on a l'idée d'un monarque qui doit mettre un peu d'ordre dans tout ça et imposer une loi plus unifiée, plus claire, plus accessible aussi aux citoyens et, espère-t-on, moins susceptible d'ouvrir à la corruption. Voilà. Alors, nous en étions venus à la définition de la République. Est-ce que sur ce que j'avais dit la dernière fois, vous auriez des précisions à demander ? Moi, je vais y revenir. Oui. Parce qu'il distingue République et gouvernement. La République, pourrait-on dire, c'est le cadre. On pourrait dire, c'est l'État. Le gouvernement, c'est les modalités d'organisation de l'État. Donc le gouvernement peut être monarchique, donc on peut avoir une république monarchique, ou il peut être démocratique si c'est une assemblée qui gouverne. Voilà, sous le cadre de la république, de l'État. L'État peut s'organiser diversement. Mais alors, je vais revenir un petit peu là-dessus. C'est une décision, une distinction importante et féconde. Bien, écoutez, alors je poursuis l'analyse de la notion de république et je vous avais donné un texte, si vous n'en avez pas, il m'en reste encore quelques-uns. Et en particulier, donc, je m'arrête deux minutes sur le deuxième texte qui donne une définition de ce qu'il entend par république. République est un droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun avec puissance souveraine. Avec le titre de ce chapitre, quelle est la fin principale de la République bien ordonnée ? Bon, la fin principale de la République bien ordonnée, c'est un droit gouvernement de plusieurs ménages. Alors, quelques remarques là-dessus. D'abord, c'est un droit gouvernement. Ce n'est pas, par conséquent, la République n'est pas une troupe de voleurs ou de pirates, C'est une république bien ordonnée. Et nous allons voir ce qu'il entend par bien ordonnée. Mais disons, en gros, c'est une république qui est gouvernée par des lois données par le souverain, mais telles que les citoyens la connaissent. Donc on n'est pas dans l'arbitraire, on n'est pas dans le désordre, on n'est pas dans le caprice, on est, ben c'est l'idée d'état de droit, on est sous le règne de loi. Plusieurs ménages, alors voilà un point aussi, je crois, assez capital, qui met évidemment Hobbes, Bodin, c'est d'ailleurs un point que je crois qu'il faut souligner, à distance de la perspective individualiste dont je parlais tout à l'heure. C'est tout à fait remarquable parce que la République, elle ordonne, pourrait-on dire, une matière première qu'elle ne se donne pas. Dans la perspective de Hobbes, ce sont les individus qui tout d'un coup se coalisent pour donner plein pouvoir au souverain, mais entre l'individu, les individus et le souverain, il n'y a pas de médiation. On est dans la politique nue, il n'y a plus de médiation de la société. Elle est présupposée par le discours. Tandis qu'ici, la République s'établit sur la base de plusieurs réalités qu'elle organise. Alors, voilà un point qu'il faut retenir parce que la conception républicaine française, à la française, laïque, jacobine, n'aime pas beaucoup définir ainsi la République parce que on a peur par-dessus tout des communautés, du communautarisme. Si vous voulez faire rugir un républicain français pur et dur, pur laine, vous lui parlez de communauté. Et la communauté, c'est la plaie de la démocratie, de la République. Dans le cas de, parce qu'il a une pensée un peu à la Hobbes, c'est-à-dire il n'y a que des individus face à la République. Il n'y a pas de groupe constitué, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de religion. On a des individus face à la République qui les protègent. Dans le cas de Bodin, on a une version, je crois, plus intéressante, plus accommodante, plus souple, c'est ce que je disais tout à l'heure, puisque la République reconnaît l'existence de divers groupes, ce qu'il appelle ici des ménages, c'est-à-dire des familles, mais ça peut être des groupes divers. Il insiste beaucoup sur l'idée de famille, et je crois que c'est assez intéressant aussi, parce que la famille est à ses yeux une petite république, nous l'avions dit la dernière fois, je crois, et elle est, selon sa formule, la vraie source et origine de toute république. Donc la vraie source et origine de toute république, c'est pas l'individu, c'est déjà une société organisée en mini-communautés qui sont les familles. Et, dit-il, alors il y a un petit côté patriarcal dans cette perspective, le gouvernement de la maison, c'est-à-dire du ménage, est, je le cite, le vrai modèle du gouvernement de la République. C'est-à-dire que le père de famille organise aussi une diversité. Alors, c'est patriarcal, mais pas au sens où le père de famille aurait plein pouvoir et ferait ce qu'il voudrait. Il doit lui-même gérer une diversité d'enfants, avec son épouse, etc., de manière droite. Donc il y a une sorte d'harmonie, j'avais parlé l'autre jour de l'harmonie chez la nature harmonieuse, harmonique comme il dit, il y a une sorte d'harmonie à l'intérieur même de la famille, comme il doit y en avoir une dans la République. Alors cette définition doit être bien remarquée parce que, en effet, est maintenue sous l'idée de République une multiplicité, puisqu'il s'agit de gouverner des ménages qui existent déjà. La République concerne ce qui est public et il n'y a pas de République si rien n'est public, s'il n'y a que des privés, que des individus privés. Donc cela suppose un espace public à gérer politiquement. On est donc un peu éloigné ici des perspectives du libéralisme politique qui est plus proche de la pensée de Hobbes ou de Locke dont nous parlons prochainement, et qui part de l'individu, pourrait-on dire, nu, face au pouvoir politique qui se doit de le protéger. Ici, la République doit reconnaître une pluralité de communautés qu'il s'agit d'ordonner. Alors, le troisième trait, c'est l'idée de puissance souveraine. Puissance souveraine, j'ai dit tout à l'heure qu'on ne trouvait pas cela chez les Grecs, et en effet, Bodin lui-même remarque que c'est un point aveugle, ce qu'il appelle un point aveugle chez les anciens, c'est-à-dire les Grecs. Et nous avons déjà vu la dernière fois qu'il n'est pas très tendre ni pour Platon ni pour Aristote, qui ont été un peu aveugles. C'est un point aveugle chez les anciens qui définissaient la République, je cite Bodin, comme une société d'hommes assemblés pour bien et heureusement vivre. Et c'est en effet ce que nous avons vu chez Aristote. La société, la cité plus exactement, est ordonnée au bien-vivre de chacun. Eh bien, c'est tout à fait remarquable de voir que, pour Bodin, le « heureusement vivre », »,« heureusement » est de trop. C'est de trop parce que on ne demande pas tant à une république de nous dire ce qu'est le bien et de nous assurer la vertu. Et d'autre part, une république n'assure pas nécessairement le bonheur de ses sujets parce qu'elle est traversée aussi de calamités, c'est le mot qu'il emploie, c'est-à-dire de troubles, et on voit bien à quoi il pense. Donc il ne faut pas rêver d'une république où les citoyens seraient dans l'amitié, chercheraient le bien, etc. Évidemment, c'est un peu une caricature d'Aristote, mais on voit ce qu'il veut dire, c'est qu'une république, ben, elle est faite de diversité, de ménage, de groupes, et entre ces groupes, il n'y a pas nécessairement un accord parfait. Au contraire, des tensions, des rivalités, des oppositions, des conflits. Et donc là encore, je crois que cette pensée mérite d'être prise au sérieux parce que elle prend au sérieux la complexité sociale, la complexité d'un pays. Et donc, la République s'occupe en effet d'assurer un certain ordre, mais elle n'a rien à voir avec la vertu personnelle. C'est à chacun de viser la vertu, de travailler à sa moralisation. Le vivre ensemble n'est donc pas noué dans un bonheur partagé, qui aux yeux de Bodin, il le dit à plusieurs reprises, serait irréel, inaccessible et inatteignable, parce que, voilà, on ne sait plus, on voit bien aussi une des conséquences des guerres de religion, ce qu'est le bien et on peut encore moins l'imposer. Donc, la souveraine puissance assurera l'unité de cette diversité, et on trouve en effet des propos de Hobbes, mais elle n'a pas à se prononcer, elle ne peut pas se prononcer sur le bien des individus. Alors, quels sont les attributs de cette souveraineté? C'est le texte numéro 3 sur la feuille. La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une république. Il est ici besoin de former la définition de souveraineté parce qu'il n'y a ni jurisconsulte ni philosophe politique qui l'ait défini. Bodin a donc parfaitement conscience de l'originalité de sa démarche. Personne encore n'a parlé de souveraineté. Et c'est cependant essentiel parce que, je continue le texte, c'est le point principal et le plus nécessaire d'être entendu dans le traité de la République. Donc, malheureusement, jusqu'à présent, on n'a jamais réfléchi à ce point de souveraineté, et c'est d'autant plus paradoxal que cette notion de souveraineté est fondamentale dans toute réflexion sur la République et évidemment dans toute vie de la République. Et un passage un peu plus loin, il faut que ceux-là qui sont souverains ne soient aucunement sujets au commandement d'autrui et qu'ils puissent donner loi au sujet et casser ou anéantir les lois inutiles pour en faire d'autres, ce que ne peut faire celui qui est sujet aux lois ou à ceux qui ont commandement sur lui. Alors, un petit commentaire là-dessus. La souveraineté est donc la puissance absolue et perpétuelle. Perpétuelle, d'abord. Elle est perpétuelle parce que l'exercice de cette souveraineté ne peut pas être le fruit d'un mandat temporaire. Comme si le peuple pouvait reprendre ses libertés ou comme si les sujets pouvaient donner des ordres au souverain et commander au souverain. Alors, ça peut paraître extrêmement étrange, mais c'est précisément cela le point de départ de l'idée moderne d'État. Vous avez peut-être entendu parler d'un livre dont on a fait grand cas, de Kantorowicz. Qu'est-ce que dit Cantorowicz? Il a une thèse, je crois, excessive, mais enfin, peu importe, je rappelle simplement. Le point de départ de son affaire, c'est lorsqu'un roi meurt, la foule proclame « Le roi est mort, vive le roi !» Le roi est mort, c'est Louis XIV est mort, on va l'enterrer, fait un très beau, très beau enterrement, monsieur va faire une magnifique homélie. Il est mort, mais la royauté ne meurt pas. Donc, le roi meurt, le roi concret, monsieur Capet XIVe, meurt, et on l'enterre. Mais la royauté ne meurt pas. Et c'est ça qui est perpétuel. On sait bien que le roi concret qui est là meurt. La République ne meurt pas. Alors, Kantorowicz, et c'est là que la thèse me paraît pas très bien fondée, cette idée viendrait selon lui de la double nature du Christ. C'est-à-dire que le Christ comme homme meurt sur la croix, mais en tant que fils de Dieu, il ne meurt pas. Alors il prétend, s'appuyant sur quelques textes obscurs de chanoines anglais, qu'on aurait transposé ça à la royauté. Bon, laissons le point de côté. Donc on aurait dit, ben, de même que le Christ, par certains côtés, meurt et par un autre côté ne meurt pas, de même le roi, en tant que corps physique, meurt et en tant que représentant de la monarchie, il ne meurt pas. Alors je crois que c'est très intéressant parce que, au fond, nous vivons toujours sur cette idée. Sarkozy n'est pas élu, Hollande est élu, mais la République reste. C'est la même République. Ça veut dire aussi, par parenthèse, mais nous y reviendrons, que le citoyen n'obéit pas à M. Sarkozy en tant que Sarkozy, pas plus qu'à M. Hollande en tant qu'Hollande. Il obéit à la République. Il obéit à la République. Les fonctionnaires ne sont pas les fonctionnaires de M. Hollande ou de M. Sarkozy, même s'ils peuvent avoir des préférences pour l'un ou pour l'autre. Ils sont au service de la République. Voilà, c'est ça l'idée de perpétuité. Donc la République ne meurt pas. En tant que telle, elle est perpétuelle, pour employer le langage de notre ami Bodin. Alors, c'est un point capital parce que ça veut dire que se trouve ruinée l'idée d'allégeance personnelle au prince. N'est-ce pas? Lorsqu'un fonctionnaire militaire, même encore aujourd'hui, fait allégeance d'obéissance aux lois, ou etc., à la fonction publique, il ne fait pas allégeance à la personne du président de la République. Et avec cette conséquence que l'allégeance tomberait lorsque le président de la République disparaît. Il fait allégeance à la République, aux lois de la République. Donc il n'y a pas un lien personnel. Alors ça peut nous paraître un peu bizarre, mais c'est quand même la ruine de l'idée de féodalité. Parce que l'idée de féodalité, c'était une allégeance personnelle du serf à son souverain, au noble. Ici, si on va jusqu'au bout, là, il n'y a pas d'allégeance personnelle, il y a allégeance à quelque chose d'impersonnel. Voilà. Donc on pourrait dire que cette définition, qui a l'air banale, elle opère en réalité une dépersonnalisation ou une décorporation du pouvoir au profit de cette puissance non incorporée, anonyme, impersonnelle, qu'est la République ou l'État. Ben, l'État, nul ne l'a jamais vu. Ben, comme le Verbe, nul ne l'a jamais vu. Dieu n'a jamais vu. Personne ne l'a jamais vu. Mais on voit ses représentants. On n'a pas vu la République, mais on voit un président de la République, qui n'est pas la République. Bon. C'est ce qui fait dire à Bodin que la souveraineté est chose invisible. La souveraineté est chose invisible. Alors à nouveau Kantorowicz, hein, le Verbe est invisible, on ne voit que Jésus. Bon, la République est invisible, on ne voit que des fonctionnaires ou un président de la République. Perpétuel. Enfin, autant que je comprenne, je crois que c'est ce qui est dans la majeure partie de ces textes. Cette souveraineté est absolue. Ah, plus difficile. Est absolument souverain celui qui ne reconnaît rien de plus grand que soi après Dieu. Citation de Bodin. Celui absolu, il est délié de toute allégeance, absolutus. Donc celui qui ne reconnaît rien de plus grand que soi après Dieu. Il est donc délié de tous, mais attention, sauf de Dieu. Alors évidemment, aujourd'hui, avec notre esprit laïque, séculier, on dit oui, c'est un mot, il dit ça pour faire plaisir au curé, mais il n'en croit pas un mot. Non, je crois que dans le contexte de l'époque, le jugement dernier, le jugement de Dieu, il suffit de dire Bossuet, c'était quand même quelque chose qui existait. On faisait trembler les princes en leur disant, bon, vous pouvez être des salauds ici, mais là-haut, attention. Alors, aujourd'hui, on dit, on rigole, on ne dirait pas ça, on ne voit pas 23 dire ça à Hollande, parce que tout le monde rigolerait. Et à l'époque, je crois que ça comptait. Et nous allons voir quand même que, pour lui, dans les textes, ça compte aussi. Bon, l'idée essentielle, c'est que cette puissance souveraine, elle s'identifie à la puissance de donner la loi. À la puissance de donner la loi. Et la loi, c'est précisément ce qui met de l'ordre dans la cité. Un petit paragraphe. Pour éclaircir ce point, dit-il, il faut présupposer que le mot de loi, sans dire autre chose, donc purement, signifie le droit commandement de celui ou de ceux qui ont toute puissance par-dessus les autres, sans exception de personne. Soit que le commandement touche tous les sujets en général, ou en particulier, hormis celui ou ceux qui donnent la loi, combien qu'à parler plus proprement, loi est le commandement du souverain, touchant tous les sujets en général ou de choses générales. Et il continue le... Donc la loi a le caractère de la généralité. Elle touche tous les citoyens indifféremment. Et la loi, ça c'est un grand principe de philosophie juridique, elle ne peut pas faire de privilèges. C'est la loi pour tous. La République doit donner une loi pour tous. Et ce pouvoir de donner la loi, il est, selon Bodin, je le cite, la seule marque de la souveraineté. Donc c'est très important, ça veut dire que la souveraineté ne s'exerce pas, c'est ce que j'avais déjà dit à propos de Luther, en faisant baver aux citoyens, en étant arbitraire, etc. La souveraineté, et le souverain seul à pouvoir le faire, c'est de donner la loi à tous. C'est de donner la loi. Et tous les autres organes de l'État, tout le reste, dépend de cette aptitude à donner la loi. Je le cite encore, « Sous cette même puissance de donner et casser la loi, sont compris tous les autres droits et marques de la souveraineté. » De sorte qu'à proprement parler, on peut dire qu'il n'y a que cette seule marque de souveraineté, attendu que tous les autres droits sont compris en celui-là, comme décider de la guerre, faire la paix, connaître en dernier sort des jugements de tous les magistrats, instituer et destituer les plus grands officiers, donc les fonctionnaires, imposer ou exempter les sujets de charges et subsides, octroyer grâce et dispense contre la rigueur des lois. Donc, contre la rigueur, la loi n'est pas brimée, mais on va dire cette personne, cette catégorie sociale, ça serait trop lourd pour elle de subir la loi, donc on fait une exception, mais la loi reste. Hein. Imposer ou exempter les sujets de charges et subsides, octroyer grâce et dispense contre la rigueur des lois, hausser ou baisser le titre, c'est la monnaie, valeur et pied des monnaies, faire jurer les sujets et hommes liges, dépendants, de garder fidélité sans exception à celui auquel est dû le serment, qui sont les vraies marques de souveraineté, comprise sous la puissance de donner la loi à tous en général et à chacun en particulier, et ne la recevoir que de Dieu. Car le prince, qui a puissance de donner les lois à tous ses sujets en général et à chacun en particulier, n'est pas souverain, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, s'il la reçoit d'un plus grand ou égal à lui. Voilà, donc, aptitude à donner la loi et donc décider de tout le reste, la guerre, la valeur des monnaies, la nomination des fonctionnaires, etc. Alors, un des corollaires de cette affirmation, c'est que la puissance qui pose la loi n'est pas soumise à la loi. Elle peut abroger la loi, elle peut la suspendre, mais le souverain n'est pas lié à la loi. Il n'est pas tenu de respecter le droit coutumier en particulier, c'est ça que ça veut dire. Mais il doit agir dans le cadre de la loi. Voilà, c'est lui qui donne la loi et il n'est pas soumis à la loi qu'il donne, mais il agit dans le cadre du droit. Alors on peut penser simplement à ce qui se passe encore chez nous avec le Conseil constitutionnel. Bon, le gouvernement peut proposer des lois, le Parlement peut les voter, bien, mais est-ce que c'est conforme à la Constitution de la République ? Donc il y a un recours possible au Conseil constitutionnel qui va dire « vous avez parfaitement le droit de faire des lois, le gouvernement est même fait pour ça, mais encore faut-il que ce soit dans le cadre du droit. » Et donc le Conseil constitutionnel peut déclarer non constitutionnelle et par conséquent invalide telle ou telle loi. Alors, je crois qu'il faut bien noter le caractère formel et non substantiel de cette définition de la loi. Hein, c'est-à-dire que les domaines d'application ne sont pas précisés. C'est aussi bien la guerre et la paix, la monnaie, c'est tout ce qui est de l'ordre public. C'est une règle universelle, applicable à toute réalité. Voilà. Alors, je crois que cette affirmation est évidemment, aux yeux de Bodin, une manière de faire pièce au droit coutumier. C'est-à-dire, c'est le souverain, la République, qui seul est habilité à donner des lois et, évidemment, à supprimer les lois antérieures. C'est ce que nous avons lu dans l'édition de tout à l'heure. La loi peut et doit s'appliquer à tous. Elle doit régler les rapports, quels qu'ils soient. D'où le caractère formel de la loi. On ne donne pas le contenu. Ben, le contenu va dépendre, effectivement, de l'application de la loi. Alors justement, l'exercice de cette souveraineté, là on a défini formellement ce que c'est que la souveraineté. L'exercice de la souveraineté va consister justement à faire des lois, à appliquer la loi. Le prince ou le souverain ou la République, elle doit être guidée par ce que Bodin appelle la justice harmonique. J'en avais parlé la dernière fois, puisque pour Bodin, retour de l'idée de nature, mais d'une nature hiérarchisée. Il y a un ordre des choses, il y a des archanges qui commandent aux anges, il y a dans la nature une hiérarchie qui est conforme à la volonté du Créateur, et par conséquent, le souverain doit respecter l'harmonie des choses. Par conséquent, il n'y a pas un arbitraire, il ne décide pas arbitrairement, il doit faire en sorte que les divers groupes vivent dans l'harmonie les uns par rapport aux autres. Donc il doit se plier à la réalité telle qu'elle est donnée pour, justement, faire en sorte qu'il n'y ait pas de heurts entre les groupes. Alors, je dirais qu'ici, cette idée, qui peut paraître un peu floue, elle est quand même très, très importante parce qu'elle s'articule sur la conception religieuse ou théologique de Bodin. Le prince doit respecter la nature des choses. Et cette nature des choses, elle est une nature ordonnée, hiérarchique, harmonique, comme il dit. Donc, de même que dans un concert, il y a des harmonies, il n'y a pas une seule note qui prévaudrait sur les autres, il y a une harmonie. Le rôle de la loi, c'est précisément de faire en sorte que cette harmonie puisse autant que possible se développer. On pourrait lire certains passages où l'on voit ça clairement. Alors, il est certain que pour beaucoup d'interprètes modernes, cette référence à un ordre des choses qui dépend de Dieu peut paraître tout à fait secondaire. Bon, je vais laisser de côté ce texte. Cette nature harmonique, ou cette loi harmonique qui structure les choses, Bodin la distingue de c'est la justice. C'est ce qu'il appelle la justice. Une loi juste, c'est celle qui va respecter l'harmonie des choses, c'est-à-dire qui n'impose pas de manière arbitraire une décision, mais qui épouse en quelque sorte les harmoniques du réel. Alors ça corrige ce que l'idée d'absoluité de la souveraineté pourrait avoir d'assez redoutable. Alors il distingue cette justice-là de la justice des Grecs, la justice distributive ou la justice commutative. Je laisse ces points de côté. Il cherche en particulier une justice harmonique. Alors il le dit en particulier dans une réflexion, c'est un juriste, hein, sur les châtiments. Alors c'est peut-être là qu'on voit mieux comment ça peut s'exercer. Les châtiments ne peuvent pas être uniformes. On voit bien le problème aujourd'hui. Mettre tout le monde en prison, ça veut dire quoi ? Bodin dit non, il faut proportionner les châtiments selon les peines, selon les crimes, les méfaits qui ont été commis. Et donc il faut prévoir toute une série de peines, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui à dire aussi, enfin avec beaucoup de difficultés. Les châtiments, comme il dit, doivent être proportionnés, harmonieux, par rapport... Donc c'est pas du tout l'idée, tout le monde à la guillotine, tout le monde en tôle, c'est qu'il faut trouver le moyen de répondre aux méfaits de ceux qui ont désobéi à la loi. Alors, attribut de la souveraineté, je voudrais maintenant ajouter que... ça conduit aussi à l'affirmation selon laquelle, évidemment, le citoyen de la République ne doit pas désobéir à la loi. Le problème de l'obéissance et de la désobéissance du citoyen. Parmi les attributs de la souveraineté, dit-il, on pourrait aussi ajouter, mais enfin, ça serait en second par rapport à ce que nous venons de dire, l'interdit de résister ou de désobéir à la loi. Je cite un petit passage, « Il n'est pas licite au sujet de contrevenir aux lois du prince sous voile d'honneur ou de justice. » Donc, on ne peut pas, l'honneur, on voit bien, les duels, les choses comme ça, l'aristocratie, s'abriter derrière l'idée d'honneur, de légitimité aristocratique pour tourner la loi, par exemple l'interdit du duel. Ou même sous prétexte de justice, dire « Ah, mais cette loi est injuste, moi j'ai une idée plus haute de justice, donc je désobéis à la loi ». Non, il n'y a pas de désobéissance possible. Car la soumission au prince souverain trouve sa justification dans le fait que le prince obéit à la loi de nature, c'est-à-dire à la loi harmonique. Alors on voit très bien, si le prince est lui-même fidèle à cette recherche de la loi harmonique, en un sens, lui obéir, c'est obéir à Dieu. Lui désobéir, c'est désobéir à Dieu. Alors, c'est pas à lui en tant que personne, encore une fois, hein, c'est à lui en tant qu'il est le représentant de la République. Bon, il admet cependant que si les ordres du prince étaient directement opposés à la loi de Dieu, il y aurait possibilité de désobéir. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a derrière tout ça tout le problème du tyrannicide, qui, comme vous savez, a été extrêmement débattu entre les jansénistes et puis ce que Pascal appelait laxistes, c'est-à-dire les jésuites. Dans la perspective de Bodin, est-ce qu'il y a la possibilité d'abattre un tyran? Alors on voit bien que non, qu'il faut obéir à la loi. Mais il a quand même une position plus subtile et on peut dire presque un peu bizarre, je vais quand même la signaler parce qu'elle nous ramène à des problèmes actuels curieusement. Il distingue ce qu'il appelle un tyran d'origine, il a l'atteint d'effectu tituli, celui qui aurait pris le pouvoir par la force et qui, par exemple, aurait liquidé son prédécesseur. Alors, dans ce cas-là, c'est-à-dire une usurpation de pouvoir, il serait légitime. Moi, c'est pas d'une clarté éblouissante dans le texte de Bodin, enfin, il semble qu'il serait légitime de se débarrasser de ce prince tyran. Donc, le tyrannicide serait possible parce que on peut déclarer, on peut viser à la mort de celui qui s'empare de manière injuste de la souveraineté. Et puis, il distingue ce tyran d'origine du tyran d'exercice, ex parte exercicii. C'est le prince qui, d'abord légitime, glisse à la tyrannie. Donc au début, c'était un bon prince, il avait été élu ou choisi comme il le fallait, et puis tout d'un coup, il bascule dans la tyrannie. Alors ici, il n'y a pas de tyrannicide possible. Bon, c'est comme ça. Mais, alors voilà la chose curieuse. Le peuple, donc, ne peut pas se rebeller contre le prince si celui-ci glisse à la tyrannie. Mais une puissance étrangère pourrait intervenir pour abattre un tyran ou en délivrer le peuple. N'est-ce pas? C'est les prémices du fameux droit d'ingérence. N'est-ce pas? Le peuple syrien ne peut pas se rebeller. Enfin, s'il le fait, il en paye le prix. Mais si je comprends bien Bodin, il serait légitime qu'une puissance étrangère intervienne pour abattre un tyran. Alors, évidemment, le problème serait de savoir, est-ce que Assad est un tyran d'origine ou un tyran d'exercice? Est-ce qu'il est devenu tyran en cours de route ou est-ce qu'il était tyran, voilà, casuistique, ou est-ce qu'il était tyran d'origine? Les sujets n'ont pas le droit de se révolter. Mais une puissance étrangère pourrait. C'est un peu le droit d'ingérence, finalement. Enfin, un peu atténué. Mais je veux dire, n'est-ce pas quand on dit, on vient d'inventer le droit d'ingérence, jamais avant, on n'y avait pensé, avant M. Kouchner, personne n'avait pensé à ça. Ben, vous lisez Bodin, vous avez déjà les prémices du droit d'ingérence, si difficile soit-il de penser les applications concrètes de ce droit. Voilà, alors les raisons données. Eh bien, c'est intéressant qu'il s'appuie sur Luther, lui qui est quand même un bon catholique. Il s'appuie sur Luther d'abord, c'est curieux, en conclusion de son livre. Mais il avance deux arguments. Le premier, c'est que si l'on admettait que les sujets se rebellent contre leur prince, même tyran, eh bien c'est toute la théorie de la souveraineté qui serait ébranlée. Parce que ça voudrait dire que le sujet se met supérieur au souverain. Or, nous avons vu que le souverain ne dépend, il est absolu, il ne dépend de personne d'autre. Donc, si n'importe quel citoyen pouvait dire « Ah ben non, moi je vais mettre une bombe dans la voiture du président de la République », bon, la théorie de la souveraineté serait morte. Oui, c'est pas possible. Donc, la théorie de la souveraineté implique dans sa logique que le sujet obéisse au souverain inconditionnellement. Et puis, il y a une deuxième remarque, je l'avais déjà dit l'autre jour, c'est que pour les esprits de cette époque, il n'y a rien de pire que l'anarchie. Il n'y a rien de pire que l'anarchie. Et je cite ce passage qui peut paraître troublant, mais qui est tout de même fort. « La tyrannie d'un prince est pernicieuse, de plusieurs encore pire. » Donc quand il n'y a qu'un prince, c'est déjà pas drôle, mais quand il y en a plusieurs, c'est encore pire. « Mais il n'y a point de plus dangereuse tyrannie que celle de tout un peuple. » Voilà, ça c'est une des constantes. Alors on peut dire c'est affreux, mais on voit bien derrière c'est la guerre civile. Quand, ben, à nouveau la Syrie ou d'autres pays, et quand plus personne ne commande, quand n'importe qui se donne le droit de tuer n'importe qui, on a 1000 tyrans. Alors, dit Bodin, mieux vaut en avoir un. Au moins on sait à quoi s'en tenir. Bon. Et alors il appelle Cicéron à la barre, donc comme toujours ça fait bien de citer Cicéron, mais Luther dit pratiquement la même chose. Alors cependant, pourquoi c'est une pensée nuancée, il admet une certaine tolérance en matière religieuse. Et ça c'est assez intéressant aussi. Il faut, alors on voit bien, il réfléchit dans un contexte français, c'est-à-dire majorité catholique, mais dans le pays, il y a quand même de fortes minorités protestantes. Alors, il faut, dit-il, mêler la majesté du souverain avec la douceur. On retrouve un peu Luther aussi. Bon, le prince doit savoir utiliser les glaives, mais il ne faut pas qu'il en abuse. Il faut même qu'il soit bon, même avec les méchants. Donc, il y a une sorte de concession faite non sans humour à l'égard des humeurs du peuple. Mais ce qui est très, donc le prince doit savoir éventuellement fermer les yeux, comme un peu chez Luther. Mais dans les séditions religieuses, quand il y a des guerres de religion, le prince ne doit pas prendre parti, et donc il ne doit pas disputer à ce sujet, et il doit laisser les choses se régler entre les partisans, et donc entre ceux qui s'opposent. Alors on peut lire le texte numéro 4, qui est lui-même très suggestif. Le titre qui est à la fin du paragraphe en italique, si le prince, dans les factions civiles, donc dans les divisions civiles, se doit joindre à l'une des parties, ou si le sujet doit être contraint de suivre l'une ou l'autre, avec les moyens de remédier aux séditions. Donc, double question, est-ce que le prince doit se positionner, comme on dirait aujourd'hui, du côté d'une des parties en conflit? Et inversement, est-ce qu'il faut obliger les sujets à adhérer, disons, au catholicisme ou adhérer au luthéranisme? Alors, je lis ce paragraphe en un petit commentaire, mais ça s'explique de soi-même. Les effets de la religion. D'autant que les athées, donc, on pourrait dire, de même que les athées, les athéistes, les athées sont d'accord qu'il y a choses qui plus maintiennent les États et république que la religion, donc même les athées sont d'accord pour dire qu'il n'y a rien qui maintienne davantage les États, les républiques que la religion, que c'est le principal fondement de la puissance des monarques et seigneuries, de l'exécution des lois, de l'obéissance des sujets, de la révérence des magistrats, de la crainte de mal faire et de l'amitié mutuelle envers un chacun. Donc, importance fondamentale de la religion. Il faut bien prendre garde qu'une chose si sacrée ne soit méprisée ou révoquée en doute par dispute, car de ce point-là dépend la ruine des républiques. Je ne parle point ici laquelle des religions est la meilleure. Donc je ne dis pas, moi Bodin, qu'il y a une vraie religion, évidemment la catholique, je ne parle pas de laquelle des religions est la meilleure, combien qu'il n'y a qu'une religion, une vérité, une loi divine publiée par la bouche de Dieu. Je ne vais pas le dire, mais je sais qu'il y en a une, la catholique. Enfin, je ne vais pas le dire, mais bon, tout le monde sait. Au cas où on se tromperait, n'est-ce pas? Je ne suis pas un laxiste, autrement dit. Bon, je ne parle point ici de laquelle des religions est la meilleure, mais si le prince qui aura certaine assurance de la vraie religion, donc le prince catholique, veut y attirer ses sujets divisés en sectes et factions, il ne faut pas, à mon avis, qu'il use de force, car plus la volonté des hommes est forcée, plus elle les revêche, mais bien en suivant et adhérant à la vraie religion sans feinte ni dissimulation, il pourra tourner les cœurs et volontés des sujets à la sienne sans violence ni peine quelconque. Alors voilà une sorte de modèle théorique de la laïcité selon Bodin. Le prince n'a pas à imposer une religion, y compris s'il pense que sa religion est la vraie. Donc le prince catholique, ou protestant, mais on est en France, le prince catholique ne doit pas imposer la religion catholique à ses sujets. Il ne doit pas pour autant être neutre, c'est-à-dire dire, voilà, c'est le modèle républicain, le modèle française que nous connaissons, il ne doit pas dire non plus, je suis indifférent en matière religieuse, je ne me prononce pas. Il doit dire qu'il est catholique ou luthérien et vivre sa foi avec ferveur et avec dévotion, sans feinte ni dissimulation. Autrement dit, il doit rendre témoignage par son engagement de la vérité religieuse. Mais évidemment, il ne faut pas l'imposer. Et il y a là, me semble-t-il, un modèle assez pertinent, enfin assez intéressant, qui est une forme de tolérance religieuse, mais qui n'est pas de l'indifférence religieuse. Nous retrouvons, je pense, ce problème de la tolérance religieuse. Ici, la tolérance va de pair avec l'allégeance du prince à une religion, mais il n'impose pas cette religion, il essaie d'en vivre comme n'importe qui d'autre. Et on voit tout à fait aussi le refus d'utiliser la force publique, la contrainte étatique, c'est-à-dire la loi, pour imposer la religion. Donc vous voyez, derrière le côté absolutiste de cette notion de souveraineté, on a un refus de ce que la loi impose une quelconque religion. On ne peut pas forcer l'adhésion religieuse dans ce domaine si sensible. Il faut donc éviter soit d'établir la religion qu'on prétend vraie, soit éviter la persécution religieuse. Le prince, même s'il adhère à une religion, ne doit évidemment pas se laisser aller à la persécution religieuse. Parce qu'il le dit à plusieurs reprises, la persécution religieuse nuit à la religion. Donc s'il est vraiment un bon prince, disons catholique ou protestant, il ne voudra pas que la religion soit mal vue. Et elle sera mal vue si on envoie des dragonnades, si on tue les gens au nom de la religion. Donc le bon prince catholique ne doit pas vouloir. C'est intéressant, parce qu'on dit souvent, là-bas, il a fallu le temps de Voltaire et tout ça pour avoir une conception tolérante de l'État. Mais on le trouve déjà chez ce brave Bodin. Je cite un petit paragraphe. « La plus forte superstition du monde n'est pas à beaucoup près si détestable que l'athéisme. Or, la persécution religieuse produit l'athéisme. » Voilà. Alors, ça sera en gros la position de philosophe au XVIIIe siècle, avec Pierre Bel excepté. Pour la plupart de ces philosophes, et notamment Locke que nous retrouverons, la tolérance va de pair avec une religion d'État qui concède l'exercice du culte, la liberté de penser aux hérétiques et aux dissidents, à condition, évidemment, que ça ne crée pas des désordres, et s'il y a des bagarres entre eux, ben c'est aux théologiens de discuter entre eux, c'est le colloque de Poissy, ben c'est aux théologiens de s'entendre, aux autorités religieuses, mais il y a une tolérance qui ne signifie pas nécessairement la laïcité à la française, où l'État dit « moi je n'ai pas de religion », il peut... Et la grande philosophie du XVIIIe siècle est là-dessus. C'est-à-dire, l'État ne peut pas être la République ne peut pas être indifférente à la religion. Ça serait pour eux une sorte d'athéisme. Ça aboutirait au relativisme. Alors voilà, c'est une ligne, je crois, qui mérite réflexion. Alors, je dis un mot, avant qu'on fasse une petite pause, sur l'origine de cette, d'où vient cette conception de la souveraineté. Quelle est l'origine de ce concept de souveraineté? Alors, je crois qu'il y a d'abord, on pourrait évidemment, comme toujours, s'amuser à chercher des sources indéfiniment. Dans le cas de Bodin, et c'est le seul qui m'intéresse ici, mais il vaut la peine de le souligner, nous l'avons déjà vu la dernière fois, les sources de cette souveraineté sont évidemment théologiques et reconnues comme telles par Bodin. Il y a une transposition sur le souverain, sur le monarque, de la souveraineté de Dieu telle qu'on la lit dans l'Ancien Testament. Mais évidemment, c'est ça qui est intéressant également, c'est une source qui est en quelque sorte épurée de la ligne antimonarchique de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que Bodin, comme d'ailleurs Spinoza, cite les textes Juges 9, Livre des Juges 9 et 1 Samuel 8, mais en écartant de ces textes tout ce qui contient en germe une critique du monarque. Vous vous souvenez des textes de Samuel, Samuel chapitre 8, le prince veut des rois, le prophète leur dit, bon, vous savez ce que c'est qu'un roi, vous aurez des impôts à payer, il emmènera vos fils à la guerre, vos filles seront réduites en esclaves, il prendra vos propriétés, c'est bien ça que vous voulez. Donc on voit bien que l'attitude du prophète, elle est quand même pas très monarchiste. Et le peuple dit oui. Alors on pourrait dire que le Bodin, comme Spinoza, ne retiennent que le oui du peuple. Oui, malgré tous les inconvénients. Alors, ce qu'il appelle la loi de Dieu, j'y ai fait allusion tout à l'heure, cette loi harmonique, elle vaut aussi bien dans la nature, la hiérarchisation des êtres, j'avais lu le texte l'autre jour, tous les êtres sont soumis à des lois de la création, donc la loi de Dieu, elle vaut dans la nature, mais elle joue dans l'histoire d'Israël aussi et dans la révélation. Alors, la loi, évidemment, est épurée des contenus du Lévitique, c'est une loi, c'est la loi mosaïque, c'est le Bodin ne retient pas toutes les consignes alimentaires, etc., qu'on trouverait dans les Lévitiques, mais cette référence reste évidemment dominante. Nous l'avions vu d'ailleurs, vous pouvez le relire, dans le premier texte que je vous avais proposé, le texte 1 des vraies marques de la souveraineté, où il cite le chapitre 8 du premier livre de Samuel, où il est tout à fait clairement indiqué que, en effet, le monarque n'est qu'une reproduction dans l'histoire du Dieu souverain. Alors, donc, il y a une marque tout à fait intéressante qu'on ne trouverait pas en tant que telle chez Hobbes. La souveraineté a plutôt chez Hobbes, ce que je disais tout à l'heure, des racines anthropologiques, c'est-à-dire qu'il est nécessaire, et les hommes comprennent qu'ils doivent se soumettre à un prince souverain pour faire tomber la peur mutuelle, pour faire baisser la crainte de la mort. Donc, il y a une anthropologie qui justifie la souveraineté. Ici, dans le cas de Bodin, la référence à l'Ancien Testament est tout à fait claire. Alors, en même temps, et il faut tout à fait voir ceci, au fond, c'est Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament. J'avais signalé l'autre jour que, dans le texte que j'ai lu en tout cas, Bodin ne cite pratiquement jamais le Nouveau Testament. Donc, le modèle du souverain, c'est Dieu lui-même. Et donc, le souverain lui-même doit se comporter comme Dieu le fait lui-même envers ses sujets. Or, il est sûr que Dieu se manifeste au Sinaï, dans les tonnerres, dans l'éclat, dans la gloire, dans la distance. Et donc, il est clair aussi que le souverain doit se garder de se mêler à la foule. Le souverain doit garder la distance, Versailles. Le souverain doit garder la distance, comme Dieu apparaît une fois dans le Sinaï, mais pas tous les matins au rendez-vous. Il faut qu'il prenne de la distance, mais qu'il se manifeste de temps en temps. Parce que Quand il se manifeste rarement, ça prend d'autant plus de valeur, comme dans l'Ancien Testament. Il se manifeste rarement et ça augmente l'éclat de la majesté de Dieu comme l'éclat du souverain. Quand on voit le roi tous les jours, on finit par s'y habituer et il n'y a plus d'éclat. Mais quand on le voit seulement de temps en temps, disons quand on le voit tous les soirs à la télévision, c'est une vedette entre autres. Mais quand on ne le voit que peu, ça c'est beaucoup plus intéressant. Alors il est très important que le souverain ne se manifeste pas très souvent, qu'il utilise des envoyés auprès du peuple. Mais en même temps, le prince doit se comporter comme Dieu, c'est-à-dire être miséricordieux, patient, ne pas hurler des lois, ne pas brusquer les choses, etc. Donc là aussi, il y a toute une petite déontologie, si je puis dire, du souverain. Le souverain a la souveraineté quasiment égale à Dieu, mais évidemment, il doit l'exercer comme Dieu le fait, c'est-à-dire pas de manière tyrannique, mais avec bonté, miséricorde, patience, etc. Bon, je lis un petit passage qui est aussi amusant, où le souverain est comparé au soleil, le roi soleil. Tout ainsi que tous les fleuves perdent leur nom et leur puissance à l'embouchure de la mer, et les lumières célestes en la présence du soleil, et aussitôt qu'ils s'approchent de l'horizon perdent leur clarté, en sorte qu'ils semblent rendre la lumière totale qu'ils ont empruntée du soleil, ainsi voyons-nous que celui qui porte la parole pour le prince souverain, donc l'ambassadeur du prince, soit au conseil privé, soit en cour souveraine, soit aux États, se mettant à ses pieds, use de ces mots, le roi vous dit. Donc, voilà, de même que le soleil réfracte sa lumière sur toute chose, et que toute chose n'a de lumière que en fonction du soleil, eh bien de même le souverain, ce soleil qui donne lumière à toute chose, et il faut considérer ces ambassadeurs, puisque c'est de ça qu'il s'agit ici, ces envoyés, on pourrait dire les préfets, comme autant de rayons venant du prince lui-même. Voilà, alors je voudrais tout à l'heure souligner que cet héritage vétérotestamentaire est tamisé par un héritage philosophique précis. C'est ce que nous dirons tout à l'heure après une petite pause. Voilà, on poursuit notre analyse. J'en suis donc dans le chapitre 3, au point 2, le concept de souveraineté. Les sources théologiques et nominalistes. Sources théologiques, je viens de les indiquer, c'est en particulier le Dieu de l'Ancien Testament, un Dieu qui donne la loi, comme le souverain donne la loi. Le peuple n'est pas convoqué pour établir la loi, elle lui est donnée par l'envoyé de Dieu, qui est Moïse. C'est un Dieu à la fois majestueux, c'est-à-dire lointain, mais c'est un Dieu qui aussi se manifeste de temps en temps et qui est aussi un Dieu miséricordieux, donc un Dieu patient, c'est le modèle du souverain. Je crois qu'il faut ajouter qu'il y a aussi une source philosophique, à savoir le nominalisme. Alors avant de développer un petit peu, c'est un point évidemment contesté, c'est toujours très difficile de discerner des sources. Certains pensent que Bodin est plus marqué par le droit romain en tant que juriste, et notamment ce fameux principe d'Ulpien, U-L-P-I-E-N, princeps legibus solutus, le prince est délié des lois. Donc cette idée que le prince est au-dessus des lois, c'est pas une invention de Bodin, même si il truffe cette allusion de référence à l'Ancien Testament, c'est un principe du droit romain. Le prince est solutus, délié des lois. Donc il faudrait certainement insister là-dessus, mais je préfère m'arrêter sur cette tradition nominaliste, parce qu'elle va jouer aussi beaucoup, certainement sur un Luther. Alors, ce nominalisme, c'est quoi? J'ai mis au nom, au tableau, deux auteurs que vous avez peut-être déjà rencontrés. D'un côté, Duns, D-U-N-S, Scott, écossais, comme le nom l'indique. Il a dû naître autour de 1266, on n'est pas très sûr, mais on sait quand il est mort, 1308. Et puis, Guillaume d'Ockham, Lui, je crois qu'on ne sait pas bien quand il est né. Enfin, il a dû naître quelque part, puisqu'il est mort en 1349. Alors, ces deux franciscains, on souligne souvent l'influence de l'école thomiste et dominicaine, mais on oublie l'importance des franciscains dans cette théologie et philosophie de la fin du Moyen-Âge. C'est des auteurs qu'on retrouve aujourd'hui, très, très subtils, très savants, très profonds. C'est pas du tout des rigolos. C'est même des auteurs très, très difficiles. Alors, eux n'ont pas parlé de nominalisme, c'est après coup qu'on les a appelés nominalistes, on les a donc, comme toujours, mis dans une formule qui est plus ou moins dangereuse. En quoi consiste ce nominalisme? De manière extrêmement rudimentaire, je dirais que c'est une réaction contre la scolastique thomiste, d'abord, c'est-à-dire l'idée que la raison, se développant sous l'influence de la foi, est quand même capable de pénétrer aussi loin que possible les mystères de Dieu, avec à la limite une prétention que nos franciscains trouvent insolente de la raison par rapport à la foi. Et donc il me semble que l'opposition se comprend assez bien comme une sorte de réaction, de réaffirmation de la transcendance de Dieu et donc de sa souveraineté. Dieu échappe en grande partie à nos prises. Et par conséquent, c'est une trahison que de vouloir trop en savoir sur Dieu. L'attitude sage évangélique, c'est celle de la pauvreté devant Dieu, ce sont quand même des franciscains, la pauvreté devant Dieu, qui est la seule façon de reconnaître sa transcendance et sa souveraineté sur nous. Donc il ne faut jamais oublier que Dieu s'enveloppe d'un mystère insondable et c'est une prétention orgueilleuse de la raison que de vouloir pénétrer cela. Alors il distingue en Dieu, j'ai mis les expressions au tableau, deux concepts. Il y a en Dieu la potentia absoluta, potentia, puissance, souveraineté, potentia absoluta et une potentia ordinata, ordonnée. Au nom de la potentia absoluta, Dieu est libre de faire ce qu'il veut faire et comme il veut le faire. Et de ce point de vue-là, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas en juger. Potentia absoluta, puissance absolue de Dieu. Dieu pourrait faire que les choses sont autres qu'elles ne sont. Dieu pourrait faire que 2 et 2 ne fassent pas 4, mais fassent 26. Et quel est l'orgueilleux qui pourrait dire à Dieu non? Ça doit être de toute éternité, ben c'est les idées éternelles de notre ami Descartes aussi, qui pourrait prétendre dire à Dieu non, 2 et 2 font 4, tu te soumets à ça. En vertu de sa puissance absolue, Dieu pourrait faire que ce soit autre chose que 4. Alors, ça n'a l'air de rien, mais derrière ça, il y a l'idée aussi que Dieu aurait pu créer d'autres univers. Ben, nous croyons que Dieu n'a fait qu'un seul univers, ben après tout, il aurait pu faire infinité d'autres univers. Bon, je ferme cette parenthèse parce que c'est quand même un thème qu'on retrouve aussi chez certains philosophes actuels, pluri-univers. Mais bien entendu, Dieu ne s'amuse pas à faire que tous les matins on change la table d'arithmétique, la table de multiplication. Donc, il se soumet à une puissance ordonnée, ordinata. Concrètement, Dieu, évidemment, se plie aux lois qu'il a lui-même posées. Mais il pourrait ne pas s'y soumettre. Alors, vous voyez la source évidente, puissance absolue de Dieu, souverain, qui pose la loi, il pourrait en poser une autre, mais c'est un Dieu sage, c'est un Dieu qui n'est pas un Dieu capricieux, c'est un Dieu qui se soumet à la loi. Enfin, plus exactement, qui pose des lois qu'il accepte, auquel il se obéit. Bon. Donc voilà le vrai prince, vous voyez tout de suite la source, hein. Le vrai prince pourrait faire que la loi soit autre qu'elle n'est, mais il ne va pas s'amuser à agacer les citoyens en changeant de loi tous les jours, ce serait de l'arbitraire. Voilà, alors ça c'est évidemment très intéressant parce que ben, c'est une source d'une pensée tout à fait admirable et en même temps difficile parce qu'on arrive à finalement, malgré toutes les précautions de nos deux philosophes, à l'affirmation d'un Dieu arbitraire. Et vous avez en germe ici l'idée qui va tellement marquer le protestantisme de la prédestination. J'ai dit tout à l'heure sur mode un peu, mais pas de plaisanterie parce que c'est même dans les textes, Dieu pourrait faire plusieurs autres univers. Bon, il le fait sûrement pas, mais il pourrait. Mais ce qui est plus sérieux, c'est que Dieu élit qui il veut et damne qui il veut. Thème de la prédestination. Et personne ne peut faire la leçon à Dieu en disant pourquoi est-ce que tu as damné cela. Et personne d'ailleurs ne le sait. Ça, c'est un des grands thèmes évidemment de Calvin. Alors, c'est à la fois une très haute idée de Dieu. C'est pas à nous de dire à Dieu tu choisis ceci et tu bon. Et puis en même temps, on voit très bien la charge redoutable de faire un Dieu capricieux, un Dieu qui on décide arbitrairement de choisir les uns et pas les autres. C'est quand même un petit peu ennuyeux. Alors voilà, le problème aussi, c'est que ce Dieu est un Dieu indiscernable. Le fameux Dieu caché de Pascal, un peu de ça, le Dieu, oui, le Dieu redoutable, on ne sait jamais quels sont les desseins. Ben, Calvin va quand même jusqu'à dire que Dieu crée des hommes pour les damner. Alors on voit quand même, on dit, bon, juger de Dieu, c'est peu. Enfin bon, quel est ce Dieu-là? Est-ce que c'est pas un Dieu pervers? Alors d'autre part, le Dieu de la Bible n'est pas simplement le Dieu redoutable qui se cache, c'est quand même un Dieu qui se communique. Alors comme dit Baudin, rarement, ah, mais c'est un Dieu qui n'est pas simplement caché, c'est un Dieu qui se révèle. Ce n'est pas simplement le monarque supérieur qui cache à l'homme ses desseins. Il les dit à l'homme, à travers les prophètes, à travers Moïse, à travers le Christ, il dit. Donc il a une parole qui n'est pas seulement une parole de souveraineté, je pose une loi puis c'est fini. On trouverait ça aussi dans l'islam. L'islam est très marqué par ce nominalisme antérieur, parce que c'est une vieille théorie. C'est, la loi est la loi, elle est donnée par Dieu, puis c'est pas à discuter. C'est pas à discuter. Alors on pourrait dire que Baudin, me semble-t-il, lit l'Ancien Testament un peu à travers cette grille nominaliste. On peut discuter perdument pour savoir si vraiment il a connu le nominalisme ou pas, mais je crois que c'était dans l'esprit du temps, et qu'en tout cas, les réformés vont être très marqués par cette perspective-là. Donc je dirais, voilà, il lit l'Ancien Testament, mais à travers une grille philosophique, et c'est souvent le cas. On pourrait dire que c'est toujours le cas, même nous aujourd'hui, quand nous croyons lire purement l'Évangile, sola scriptura, c'est une belle blague, on ne lit pas l'écriture seule, on lit toujours à partir de nos lunettes. Mieux vaut le savoir que de faire comme si. Vous comprenez l'histoire de la prédestination, bon, je veux bien que dans la Bible, il y a en fait Dieu choisit les uns contre les autres, mais enfin, de là en faire une théorie radicale, il y a quand même un pas. Alors, je voudrais indiquer, je l'ai déjà fait un peu, la portée de ce concept de souveraineté. Bon, je vais dire deux ou trois choses. La première chose que je voulais dire, je l'ai déjà plus ou moins dite, c'est le lien entre cette idée de souveraineté et l'idée de l'état de droit moderne. Alors, ça peut paraître surprenant que cette idée de souveraineté, qui paraît arbitraire, qui paraît un peu capricieuse, elle ouvre la voie à l'idée d'un état de droit. Et d'un état de droit où la loi est stable, où la loi est posée, où les sujets savent à quoi ils sont tenus. Et donc cette idée-là, elle va contre l'idée d'un pouvoir arbitraire, d'un pouvoir capricieux qui changerait la loi à son gré, etc. Ce qu'on va reprocher à la monarchie, la Révolution française va naître un peu de cette idée, les lettres de cachet, le caprice du prince, etc. Mais on a chez les grands juristes que sont Baudin et d'autres, cette idée qu'au contraire, la loi, il faut que le souverain la donne, la fixe, et que le sujet sache à quoi il est tenu. Donc ça, c'est vraiment l'idée de l'état de droit moderne que nous connaissons aujourd'hui, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, l'idée d'impersonnalité. Quand nous payons nos impôts, nous ne les payons pas à M. Hollande ou à M. Sarkozy, nous les payons à l'État républicain, à la République, et pas à une personne. Quand un fonctionnaire remplit sa fonction, il n'obéit pas à M. Hollande en tant que tel, il obéit au président de la République. Et c'est évidemment une très grande différence. Le président président de la République, est un être passager pour 4 ans, et qui peut être renouvelé, mais la République, elle, à moins qu'elle soit abolie, ne passe pas. Enfin, je veux dire dure, il y a une perpétuité. L'État ne meurt pas. Alors, l'autre conséquence, j'y ai touché tout à l'heure, mais ça vaut la peine d'y revenir sous un autre angle, c'est le rapport entre le temporel et le spirituel. Si vous voulez, entre l'État et l'Église. Alors, j'ai signalé tout à l'heure que, c'est notre quatrième texte, que la position de Bodin est nuancée, je crois pertinente, elle peut nous aider à réfléchir à une certaine idée de tolérance, mais je voudrais signaler un autre point ici tout à fait capital, c'est que l'État souverain peut et doit s'affirmer par lui-même en tant que puissance de droit. Et le souverain ne tient pas sa légitimité directement de Dieu, et encore moins de l'Église. Alors évidemment, la monarchie française vivait dans l'idée qu'il y a une onction du prince à Reims par les évêques ou par le pape, donc l'idée que le roi est élu de Dieu. Ça n'est pas la théorie de Bodin, et à ce titre, cela vaut la peine d'être souligné. Le souverain, selon Bodin, et la République laïque va hériter de cette idée, il tient sa légitimité de sa souveraineté même. Alors, c'est d'autant plus amusant, je dirais, que la référence à l'Ancien Testament aurait pu conduire à une sorte de théocratie. Dire le souverain, il dépend de Dieu. Et par conséquent, puisque Dieu s'est révélé, que nous le connaissons et qu'il nous est transmis par l'Église, le prince dépend de l'Église. Ça sera un peu le gallicanisme. En réalité, le gallicanisme, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que c'est le souverain temporel qui a la haute main sur l'Église. En tout cas, ce n'est pas à quoi aboutit Bodin, et c'est ça que je voudrais souligner. C'est que la République vaut par elle-même, la République au sens de Bodin. Et la République, nous l'avons vu dans le texte 4, elle peut reconnaître la religion qu'elle veut ou non pas reconnaître. Elle pourrait théoriquement. Dans le texte que nous avons lu, nous sommes en France, le souverain est catholique, il doit s'afficher comme catholique, mais il ne doit pas imposer la religion. Mais ça pourrait valoir théoriquement ailleurs. Le prince pourrait être luthérien, ou ne pas avoir de religion, mais n'en pas imposer. Donc, ce qui est intéressant aussi à devoir, c'est qu'un changement éventuel de religion n'affecte pas la République souveraine, qui reste souveraine, quoi qu'il en soit. Voilà. Autrement dit, le prince lui-même peut devenir protestant, ou passer de catholique, de protestant à catholique ou l'inverse, la République reste souveraine. Parce que ce n'est pas à lui, en tant que personne, donc en tant que catholique ou en tant que protestant, qu'on obéit. Je cite un tout petit passage. « Changement de loi, de coutume, de religion, de place, n'est autre chose qu'une altération si la souveraineté demeure. » Voilà, donc on peut changer, le prince peut changer de religion, mais la souveraineté demeure. Alors, c'est aussi intéressant parce qu'on liquide là toute idée de république chrétienne. Il n'y a pas de république chrétienne et le prince ne dépend pas de l'Église, au moins dans la logique bodinienne, si je puis dire. Il est intéressant de voir que cette affirmation de la souveraineté de la République ne se fait pas contre le christianisme, contrairement à l'interprétation que donnent beaucoup d'auteurs actuels, mais dans une certaine lecture de l'Ancien Testament, tamisée par le nominalisme. L'idée que l'État a sa souveraineté en tant que tel et qu'il ne dépend pas de l'Église naît dans un contexte chrétien et catholique même chez Bodin. Alors qu'on dit toujours l'État moderne, il est né contre l'Église. L'État moderne est indépendant. Chez Bodin, il n'en est rien. L'État moderne a sa pleine légitimité en tant qu'il est souverain, qu'il limite la souveraineté de Dieu. Mais cette souveraineté, elle vaut par elle-même, elle n'est pas reçue par l'Église. Alors le prince peut aller se balader à Reims pour se faire sacrer, mais c'est pas l'évêque qui lui donne sa souveraineté. Il la reçoit de lui-même. Donc il y a une sorte d'indifférence juridique de l'État, et c'est vrai de l'État moderne souverain, envers la religion. Alors, encore une fois, ça n'exclut pas la religion. Le souverain peut et doit, dans un pays chrétien, avoir une religion, mais ça veut dire qu'il ne l'impose pas. Et ça veut dire aussi qu'en toute logique, l'Église n'a pas nécessairement un statut privilégié. Elle rentre, d'ailleurs c'est explicite chez Bodin, dans la catégorie des corps et collèges. Donc elle fait partie de la société civile. Alors le souverain ne doit pas l'ignorer, encore une fois il peut et il doit avoir une religion, il doit y adhérer, il doit en vivre, mais l'Église en tant que telle n'a pas à demander de privilèges d'une certaine façon. Elle est un corps parmi d'autres que le prince soutiendra éventuellement parce qu'il estimera que les églises rendent des services, elles aident les pauvres, elles éduquent les gens, elles assurent le culte, elles permettent une certaine culture des citoyens, elles les appellent à obéir, donc le prince a intérêt. Donc, vous voyez, je ne veux pas dire par là que le prince ne doit pas financer les églises, mais il n'y a pas de lien intrinsèque. Il peut le faire, mais ce n'est pas obligé. Et en particulier, l'église n'est pas exempte de charges fiscales. Vous vous souvenez qu'avec Philippe le Bel, il y avait eu un conflit de la papauté parce que le roi voulait imposer les monastères et qu'on disait, mais non, les monastères sont indépendants, il ne s'agit pas qu'ils payent des impôts. Ben, chez Bodin, ils doivent payer des impôts. Et les clercs doivent être soumis aux tribunaux de la République. Vous vous souvenez de l'histoire de pédophilie, il y a quelques années, on disait, ah oui, mais les clercs, ils dépendent des tribunaux ecclésiastiques. Ben, non, pour Bodin, oui. Voire des tribunaux ecclésiastiques, ils vont les suspendre de leur fonction ecclésiastique, mais en tant qu'ils sont éventuellement criminels, ils dépendent des tribunaux de la République. C'est ce que nous vivons. D'ailleurs, si un prêtre religieux commet un crime ou un vol, il est traduit devant les tribunaux de la République. En plus, l'Église peut lui donner des sanctions ecclésiastiques, l'envoyer au fin fond d'un monastère, mais ça, c'est bon. Alors, ce qui est tout à fait remarquable aussi, c'est que la souveraineté du prince ne vient pas du pape. Alors aujourd'hui, ça nous paraît aller de soi, mais à cette fin de Moyen-Âge, l'idée de la souveraineté, le souverain pontife, parce que voilà aussi, souverain pontife. Bon, l'idée, c'est que toute souveraineté, les deux clés, appartenaient au souverain pontife qui pouvait en déléguer une au pouvoir temporel. Alors ça, chez Bodin, c'est complètement... écarté, à nouveau la phrase que nous avons vue, un prince qui tient sa puissance d'autrui n'est point souverain. Donc si le prince recevait sa souveraineté du pape, il ne serait pas vraiment souverain, il dépendrait du pape. Alors vous voyez, c'est aussi, je crois, à souligner, parce que le débat qui va se développer avec Jacques Ier et les catholiques en Angleterre consiste à dire, chez les catholiques, le prince est nécessairement soumis au pape. Mais chez Bodin, ce n'est pas du tout le cas. Le prince obéit au pape, comme tout fidèle obéit au pape. Mais il n'a pas à recevoir ses ordres du pape. Il est souverain, donc c'est lui qui prend ses initiatives. C'est, je crois, tout à fait à souligner, contrairement à ce qu'on dit souvent dans les polémiques. Voilà. Alors, cela veut aussi dire, et je crois qu'il faut le souligner, qu'au niveau des relations internationales, et par exemple avec la papauté, justement parce que le prince ne dépend pas du pape, il peut nouer avec la papauté des accords, c'est-à-dire passer des concordats. S'il est vraiment souverain, et s'il considère, comme on le fait aujourd'hui, le Saint-Siège comme un autre souverain, rien n'empêche et rien ne limitera ou n'atténuera la souveraineté du prince si ce prince passe des concordats avec l'Église pour gérer les biens de l'Église, pour... les charges, pour des choses comme ça. Donc, ce n'est pas l'idée d'une séparation de l'Église et de l'État, d'ailleurs, qui est une idée hypocrite, puisqu'on a des relations diplomatiques avec le Saint-Siège, notre République laïque, un ambassadeur auprès du Saint-Siège, et il y a un nonce apostolique en France. Enfin bon, on y reviendra un jour. L'idée de Bodin, c'est que, justement, le souverain peut tout à fait nouer des relations et, comme je disais tout à l'heure, éventuellement donner des subsides à l'Église, mais ça ne va pas de soi, c'est lui qui doit en décider. Alors, l'autre chose que je voudrais souligner rapidement, c'est que ce concept de souveraineté, il entraîne avec lui le concept de citoyenneté et le concept de nation. Dieu sait si aujourd'hui on discute de ce que c'est qui fait la citoyenneté, et ainsi de suite. Comme on l'a vu tout à l'heure, la loi s'applique à tous, même si au nom de la justice harmonique, la loi ne traite pas également tous les sujets. Ça, c'est un point capital parce que nous sommes aujourd'hui dans une position où égalité veut dire égalitarisme. On voit bien dans le débat sur le soi-disant mariage pour tous, il faut que les homosexuels soient traités également de manière égalitaire avec les hétérosexuels. Pour Bodin, ça c'est de l'injustice. Parce que l'égalité suppose qu'on traite les choses diversement. Or, entre homosexuels et hétérosexuels, évidemment c'est pas un exemple que prend Bodin, je le prends pour fait actuel, il y a quand même une différence fondamentale. Donc la loi harmonique, elle doit tenir compte de cette harmonie. Mais la loi vaut quand même pour tous de manière différenciée. Et il faut tenir compte des différences. Mais ce qui caractérise le sujet, le citoyen, c'est qu'il dépend du souverain. La citoyenneté se marque au fait que le citoyen est sous l'hégémonie du prince. Et donc, il y a une distinction essentielle entre les sujets du prince, qui obéissent à la loi, et les non-sujets, entre les citoyens, ceux qui sont qui reconnaissent la souveraineté du souverain, et les étrangers. Il y a ceux qui relèvent de la loi édictée par le souverain et les autres. Je lis un passage, c'est la reconnaissance et obéissance du franc sujet, sujet libre, c'est la reconnaissance et obéissance du franc sujet envers son prince souverain et la tuition, c'est-à-dire la protection, la tuition, justice et défense du prince envers les sujets qui fait le citoyen. Donc vous voyez les deux côtés, le prince, le citoyen obéit au prince, mais le prince protège la propriété et éventuellement les droits du citoyen. Je relis cette phrase, c'est la reconnaissance et obéissance du franc sujet envers son prince souverain et la tuition, justice et défense du prince envers les sujets qui fait le citoyen. Ce qui est, c'est toujours du Bodin, ce qui est la différence essentielle du bourgeois, le citoyen, et de l'étranger. Les autres différences sont accidentelles. Donc, qu'est-ce qui fait la citoyenneté aux yeux de Bodin ? C'est le fait que le citoyen obéisse à la loi, soit sujet de la loi. Donc, à la fois, il obéit et il est protégé par la loi. Donc, il y a une réciprocité du rapport, mais il est clair que le sujet, ça va être différent de ce que nous allons voir la prochaine fois avec la souveraineté démocratique, reste un sujet passif. Alors, on pourrait dire qu'on a là la première conception moderne de l'État ou de la citoyenneté. La citoyenneté dépend de la reconnaissance du souverain et par le souverain qui confère au sujet un certain nombre de droits, notamment le droit d'être protégé. Alors, ça ne veut pas dire évidemment que l'étranger n'a pas à être protégé aussi. Mais, premièrement, il faut que l'étranger obéisse aux lois du pays. S'il n'obéit pas aux lois du pays, il sera ou chassé ou mis en prison. Et d'autre part, le souverain, et je crois que ça vaut la peine d'être souligné aussi, il peut reconnaître un droit d'asile. Donc il peut admettre qu'un citoyen d'un pays étranger, d'un État souverain étranger, vienne se réfugier chez lui pour X plus une raison que le souverain pourra reconnaître. Donc l'État de droit n'est pas seulement un droit replié sur lui-même, c'est un droit qui accepte l'asile d'être un refuge potentiel pour l'étranger. Voilà. Mais il exclut évidemment que le citoyen lui-même puisse quitter son pays et aller se réfugier ailleurs. Ça, c'est bon. Il est prêt à accueillir, mais il n'acceptera pas que le sujet parte en Belgique ou en Russie pour ne pas payer ses impôts. Autre point encore intéressant, c'est que, alors, tout ça c'est lié évidemment à un territoire, je vais y venir tout de suite, mais cette souveraineté qui est limitée à un groupe de citoyens sur un espace défini, elle peut s'étendre au-delà du territoire. C'est-à-dire l'État souverain a un devoir de protection de ses citoyens au-delà du territoire. Ça c'est intéressant parce que les ambassades, c'est un peu ça, si vous voulez, il y a des Français qui sont enlevés au Cameroun, bon, on peut pas dire ça ne nous regarde pas. C'est aussi à l'État de protéger ses sujets. Et on peut toujours se réfugier dans une ambassade si on a perdu ses documents, si on a... etc. Et l'ambassade, en principe, doit vous protéger. Donc l'idée, c'est pas une souveraineté étroitement refermée sur les frontières. Le citoyen, il reste citoyen au-delà des frontières. N'est-ce pas? Il y a une citoyenneté qui dépasse les frontières. C'est un point tellement fondamental que le citoyen est défini par les droits. Le droit d'avoir des droits, comme dit Hannah Arendt. Le droit d'avoir des droits. Avec cette conséquence qu'un citoyen qui ne serait plus sous la protection d'un État risquerait de n'être plus rien. L'homme nu. Hannah Arendt a beaucoup analysé ça dans les migrations européennes, où des gens quittaient leur pays, ou étaient exclus, être banni de sa nationalité, avec le risque de n'avoir plus aucun droit. Alors, même un étranger, un Français en Chine ou en Inde, il est sous la protection de la loi encore. Mais s'il n'y a plus de protection de la loi, il est un homme nu. Alors, le dernier point et qui nous entraînerait dans l'analyse de l'idée de nation, c'est évidemment que cette idée de souveraineté, curieusement, elle implique l'idée d'un découpage territorial. La souveraineté s'exerce dans les limites d'une frontière, dans les limites d'un territoire. Donc il y a un lien entre citoyenneté, nationalité, territorialité, avec le bémol que j'ai indiqué précédemment, c'est que le citoyen reste citoyen de Français ou Américain, même s'il est dans un pays étranger. Alors, cette idée de souveraineté, elle entraîne avec elle aussi l'idée de pluralité des États, d'États souverains, qui peuvent s'entendre entre eux et qui doivent s'entendre entre eux. Ben, c'est un autre sujet. Avec la très grande difficulté qu'on trouverait par exemple avec les Roms, c'est que dans cette perspective de territorialité, les populations nomades échappent aux catégories juridiques et politiques de ce genre de considération. Parce que c'est des gens, ils sont qui? Ils dépendent de quelle nationalité, qui les protège. Donc est-ce qu'on peut se les renvoyer de frontière à frontière ou pas? Alors on voit bien que la difficulté de cette fixation de la souveraineté en un État territorial rend difficile la reconnaissance des populations qui ne soient pas nomades. En tout cas en Europe, il n'y en a pas plus beaucoup. Enfin, il y en a encore quelques-uns. Alors, ceci posé, je voudrais revenir maintenant à quelques difficultés, quelques objections faites à cette idée de souveraineté nationale. Bon, c'est le dernier point sur les critiques. Alors, on pourrait en faire beaucoup. Je dirais d'abord, il y en a une qui semble s'imposer, que vous avez sans doute déjà à l'esprit. C'est qu'on peut dire, cette idée de souveraineté liée à l'État moderne, à l'État de droit, elle est liée à un territoire, elle est liée à une nation, mais est-ce que tout ça n'est pas du passé à l'heure de la mondialisation? Autrement dit encore, est-ce que l'idée de souveraineté n'est pas largement battue en brèche, voire même vidée de son contenu? J'ai fait allusion au président de la République, le pauvre homme par rapport au circuit financier, au prix du pétrole, sans parler des problèmes du climat, quelle est sa souveraineté? On peut dire que c'est Wall Street qui dirige les bourses et non pas l'Élysée. Bon, alors on pourrait dire que la souveraineté c'est une prétention un peu vaine et qui couvre aujourd'hui beaucoup d'impuissance en réalité. Bon. C'est un argument qu'il faut certainement entendre. Je crois que la conception de Baudin montre que la souveraineté peut être souple. Il peut y avoir des délégations de souveraineté. Par exemple, nos États souverains nationaux ont délégué beaucoup de leur pouvoir à l'Europe. On peut critiquer ça, mais c'est pas contre. On dit souvent l'Europe est contre les souverainetés. Mais non, on a accepté. Nos États ont accepté cette souveraineté. Cette délégation de souveraineté. Donc, la conception de souveraineté n'est pas aussi rigide qu'on pense, et elle peut être, en effet, ouverte. Mais il n'en reste pas moins, c'est sûr que cette idée de mondialisation déplace quelque peu les problèmes par rapport à notre ami Baudin. Mais je ne suis pas sûr que l'idée de souveraineté soit en tout point ruinée. Parce que, par exemple, l'État souverain reste quand même maître chez lui en beaucoup de domaines, dans le domaine de la justice. Et là encore, il peut être une source d'inquiétude. Comme je l'ai dit à propos de Hobbes et un peu à propos de Baudin, l'idée de souveraineté vise à assurer une garantie pacifique aux citoyens. Elle suppose par conséquent que le souverain ne soit pas une menace. Or, beaucoup d'États modernes risquent de devenir et ont été des menaces pour les citoyens. Alors on pourrait penser au totalitarisme. Mais je pense aux travaux d'une juriste qui est Madame Delmas Marty. Vous avez peut-être lu certains de ses livres. En particulier dans un livre qu'elle a publié en 2010, au seuil, qui s'appelle Liberté et sûreté dans un monde dangereux. Cette juriste met en garde contre certaines dérives de la justice aujourd'hui. Par exemple, l'idée de dangerosité. N'est-ce pas? Il y a eu des projets de loi, il y a même des pratiques concernant la dangerosité de certains citoyens. Les bracelets électroniques, etc. C'est une notion, selon elle, extrêmement dangereuse. Parce que, qu'est-ce qui n'est pas dangereux et qu'est-ce qui l'est? Alors, il y a des dispositions juridiques qui sont mises en place et qui risquent de se retourner contre la sécurité des citoyens. Alors, on pourrait parler, si vous voulez, des excès de la justice. Elle analyse d'ailleurs longuement l'affaire d'Outreau. Vous vous souvenez d'Outreau, un petit juge de 27 ans s'est cru en droit de traîner des gens en prison sous des soupçons qui se sont avérés fallacieux. Seulement, on ne met pas seulement des gens en prison, on brise leur vie. Il y a une femme qui a été mise en prison, elle venait d'avoir un bébé qui avait 3-4 mois, on l'a mise en prison, elle est restée 4 ans en prison sans voir son bébé. Bon, alors, l'État souverain qui protège les citoyens dans cette affaire, c'est un petit peu quand même problématique. Bon, alors ce que souligne Madame Delmas Marty, mais elle n'est pas la seule, on pourrait dire Garapon aussi, disent un des problèmes de cette idée de souveraineté, c'est que il peut y avoir des dérives de la justice au nom de la sécurité, mais qui se retournent en menace contre le citoyen. Bon, on pourrait dire toutes les, c'est pas particulièrement menaçant, toutes les, comment on appelle ça, les projecteurs, enfin les caméras qu'on voit dans les métros. Bon, elles sont pour nous protéger. Évidemment, nous sommes très heureux de les avoir. Mais enfin, en même temps, vous êtes suivis à la trace. C'est pas si vous prenez un billet de métro, on sait combien de temps vous restez dans le métro, quand vous partez, et ainsi de suite. La traçabilité de vos portables, des nôtres, ça assure notre sécurité. En même temps, l'État souverain peut mettre son nez là-dedans. Alors, c'est très bien, parce qu'on a pu découvrir, semble-t-il, des criminels et des terroristes. Enfin, bon, voilà. On pourrait multiplier ces exemples. Alors, je crois que je voudrais en venir, avant que nous séparions, sur une critique plus fondamentale que je vais tirer d'un philosophe malheureusement un peu oublié, qui est Jacques Maritain. J'avais mis dans la bibliographie un texte de Maritain, M-A-R-I-T-A-I-N. C'est un philosophe catholique et thomiste. C'est deux défauts qui sont irrémédiables et qui lui ont valu d'être totalement marginalisé. Il est mort en 1973. Alors, voilà, c'est un philosophe, donc, néo-thomiste, disons, et qui a écrit un livre que je vous recommande, j'ai recommandé dans la bibliographie, qui s'appelle « L'homme et l'État ». « L'homme et l'État », qui a été publié en 1953 et réédité chez Des Clés de Rouvert en 2009. C'est un auteur qui a beaucoup fait, notamment pour acclimater l'idée de droit de l'homme dans l'Église et l'idée de démocratie, mais je ne vais retenir que ce qu'il dit de la souveraineté. Il fait, me semble-t-il, deux critiques essentielles. Je retiens ces deux critiques essentielles. D'abord, il affirme qu'il s'agit, je le cite, d'un concept intrinsèquement illusoire. Donc un concept qui est une pure et simple illusion et un concept qui n'a pas sa place en politique parce qu'il aboutit à la limite à une sorte d'idolâtrie de l'État. On transpose sur l'État la souveraineté ou une souveraineté qui n'appartient qu'à Dieu. La souveraineté ne signifie rien, ou plutôt, elle signifie, je le cite, un pouvoir suprême séparé et transcendant. Non pas au sommet de l'État, mais au-dessus du sommet. Donc il s'agit, si on prend au sérieux ce concept de souveraineté, d'un pouvoir absolu et illimité qui peut convenir à Dieu, qui convient à Dieu, mais qui ne convient pas en aucune façon à l'État. Alors, voilà une critique assez pointue de ce courant essentiel de la philosophie moderne qui, au fond, transpose l'idée de souveraineté de la théologie à la politique. Et il vaut la peine de noter qu'un philosophe comme Maritain s'indigne de ce qu'on aboutisse ici à une sorte de souveraineté, à une sorte d'idolâtrie de l'État. Et donc, il repousse absolument cette idée de souveraineté. Mais il y a une deuxième critique, peut-être plus intéressante encore. La première, donc, c'est une critique des sources théologiques, enfin, d'un usage idéologique, enfin, de ces sources théologiques, et je crois que là-dessus, il n'a pas tout à fait tort, c'est que, il ne faut pas oublier que Maritain, tout thomiste, parce que thomiste, est aussi un démocrate. Et le grand reproche qu'il fait à l'idée de souveraineté, c'est qu'elle dépouille le peuple du pouvoir qu'il a sur lui-même. Et c'est donc inacceptable. C'est le peuple qui est la source du pouvoir. Omnis potestas adeo per populum. Voilà une maxime médiévale. À nouveau, on n'a pas entendu Rousseau ou Voltaire, en plein Moyen-Âge. Omnis potestas, tout pouvoir vient de Dieu, per populum. Alors, substituer au peuple l'État, c'est dépouiller le peuple de son pouvoir sur lui-même. Et donc, il ne faut pas penser le rapport du peuple à l'État en termes de souveraineté, mais, dit Maritain, en termes d'instrumentalité. L'État est l'instrument à travers lequel le peuple décide de son avenir, de son bien. Donc, l'État est au service du corps politique, et non pas l'inverse. On a là le grand principe de la doctrine sociale de l'Église, le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que tout ce qui peut être décidé par la base, notre ami Bodin dirait par les ménages, doit être décidé par la base. Et quand la base ne peut pas décider, on s'en remet au sommet. Grand principe de la doctrine sociale de l'Église, que l'Europe d'ailleurs a reconnu, du moins en théorie. Comme en théorie, l'Église reconnaît ça pour le public, mais peu en pratique elle-même. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Bon, mais enfin, tout de même, notons cette idée que c'est quand même le peuple qui décide. Un principe de subsidiarité. Et pour Maritain, le peuple ne peut pas être dépouillé et ne doit pas l'être de son pouvoir. Voilà qui nous fait passer à la démocratie que nous verrons la prochaine fois. Et il a des propos extrêmement durs là-dessus. Alors je crois que c'est une objection extrêmement intéressante, parce que on voit très bien qu'elle est liée à une certaine conception finalement théologique de Dieu, mais aussi à une conception finalement philosophique du pouvoir du peuple. Alors, je ne crois pas cependant qu'on puisse totalement abandonner cette idée de souveraineté, mais il faut la comprendre de manière souple, et je crois que Bodin nous y aide. Mais je dirais volontiers que je reprendrai la définition de Eric Weil dans sa philosophie politique, dont je vous avais donné la référence dans la bibliographie, quand il écrit ceci dans sa philosophie politique, au paragraphe 31, « L'État est l'organisation d'une communauté historique, donc une communauté qui a une histoire, qui a un passé, qui a des traditions, qui a des façons de faire. » Donc l'État n'est pas absolument souverain, il organise cette communauté. L'État est l'organisation d'une communauté historique. Organisée en État, la communauté est capable de prendre des décisions. Voilà qui nous ouvre à la démocratie. Mais dans le cadre de l'État. Alors, on pourrait dire que, même si Weil est très loin de Maritain, il y a un rapprochement. L'idée, c'est que l'État est au service de la communauté nationale, en vue de son avenir. Il est l'ensemble des institutions, des organes qui permettent à une communauté, eh bien, de choisir son destin. Et c'est ça, la démocratie. Alors, ça nous conduit à ce que nous allons voir dans la suite, c'est le chapitre suivant. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'au fond, la pensée politique moderne, elle est travaillée par deux références essentielles. La référence de la souveraineté et de la subordination, je l'avais dit la dernière fois, qui met le citoyen en position d'obéissance et donc de dépendance à l'égard du souverain, avec toutes les dérives qu'on peut connaître. Mais cette idée de souveraineté verticale, de subordination, elle engendre et elle a engendré historiquement l'idée que le pouvoir souverain doit rendre compte devant le peuple. Car c'est du peuple dont il s'agit. Et donc cette idée de subordination, elle va engendrer dans l'histoire l'idée d'un contrôle par le peuple du pouvoir souverain. Et on pourrait dire, c'est ce que nous dirons dans la suite, que la démocratie, au fond, ça n'est rien d'autre, ça n'est pas l'abolition de l'idée de souveraineté, c'est dire le peuple, lui, est souverain et il doit précisément avoir droit de regard sur des décisions prises en son nom. Et donc on a là ce que j'appelle un principe de coordination. Et la pensée politique moderne tient dans cette double relation, relation de subordination, selon le premier modèle de la souveraineté que nous avons trouvé chez Bodin, retrouvé chez Hobbes, et un principe de coordination, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas que le souverain décide, encore faut-il qu'il rende compte devant le peuple, alors qu'est-ce que ça veut dire devant le peuple, on va y revenir, enfin qu'il a à rendre compte devant le peuple des décisions qu'il prend, et donc les justifier, ce qui modifie beaucoup, évidemment, le modèle par rapport à ce que nous avons vu chez Bodin et encore plus chez Hobbes. Autrement dit, le pactum subjectionis, pour employer un peu de latin, le pactum subjectionis va de pair avec le pactum associationis. Le pacte de suggestion va de pair avec le pacte d'association ou de coordination. Et je voudrais souligner, mais nous y reviendrons avec force, que la démocratie ne supprime pas le pacte de subordination. Le souverain, là, il ne faut pas confondre la démocratie et l'anarchie. Le démocrate ou les démocrates que nous obéissons à la loi. Nous payons nos impôts. Quand il y en avait un, nous allions au service militaire, au moins les hommes. Privilège des femmes, en passage, qui est supprimé aujourd'hui. Etc. Donc la subordination n'est pas totalement absente, loin de là, sans parler de l'ordre public et de la justice, dans les démocraties. Voilà, alors la prochaine fois, mais il nous reste quelques minutes pour discuter de ces choses, on pourra revenir sur tout ça la prochaine fois, mais s'il y a des questions d'éclaircissement, on peut profiter des quelques minutes qui restent avant que nous passions au chapitre 4, donc sur la démocratie. Voilà, est-ce qu'il y a des points pour ceux qui n'étaient pas très clairs ? Sûrement, parce que c'est compliqué. Oui.